Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes donc sur le polycopier, le deuxième polycopier de Saint Matthieu, qui couvre les chapitres 6 à 10. Nous en sommes à la page 14. Je voudrais revenir une seconde sur deux textes publiés par le père Ricard Torrens, pour être sûr que les idées sont claires, sur le commentaire que j'ai donné la dernière fois, le dernier cours, sur les chapitre 7 de Saint Matthieu, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse la voie qui conduit à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par elle, qu'étroite est la porte et resserrée la voie qui conduit à la vie, et qu'il y en a peu qui la trouvent. Donc, je voudrais lire un peu deux petits passages du père Ricard Torrens, du Nombre des élus, pour être sûr que, encore une fois, que les idées soient claires là-dessus, c'est important. Voilà ce que dit le père Ricard Torrens à la page 24. À première vue, il peut paraître inutile et inconvenant de débattre la question du nombre de ceux qui se sauvent, mais essayer de coordonner nos opinions avec donner la révélation, pas simple curiosité ni simple étude théologique. Les saints en ont longuement traité, ont écrit et prêché sur le sujet et ont constaté les fruits salutaires que l'on obtient quand on parle de ce terrible problème. En définitive, nous soutenons les propositions suivantes. Premièrement, le Seigneur reconnaît les siens. C'est une citation de Saint Paul, 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Deuxièmement, beaucoup se sauvent. Je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, peuple et langue, nous dit Saint Jean en parlant des élus. Au livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Rappelons-nous seulement que selon certains historiens, le nombre des martyrs fut de plusieurs millions dans les trois premiers siècles de l'Église et que tous les saints de cette époque ne furent pas martyrs. De plus, l'Église alors n'était qu'un petit noyau. Elle sera certainement très nombreuse dans le ciel, la couronne qui chantera les louanges de la Sainte Trinité. Il appartient à chaque homme de faire partie des bienheureux parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Troisièmement, très nombreux sont ceux qui se damnent. Saint Matthieu dit beaucoup. Multi. Saint Matthieu, chapitre 7, verset 13, que nous venons de voir ensemble. Quatrièmement, la doctrine selon laquelle tout le monde se sauve est condamnée. Voilà la syllabus, proposition condamnée numéro 17. Au moins doit-on bien espérer du salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ. Donc proposition condamnée par le pape Pie IX dans le syllabus. Comme le dit Saint Prosper, cinquièmement, si l'on se sauve, si l'un se sauve, c'est par la grâce du Sauveur. Si d'autres se perdent, c'est par leur faute. Le Dieu Tout-Puissant veut le salut de tous les hommes sans exception. 1 Timothée 2, 4. Bien que tous ne se sauvent pas. On peut donc traduire en disant de volonté antécédente, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. De volonté antécédente, Dieu veut le salut de tous les hommes. Mais de volonté conséquente, Dieu ne sauve que ceux qui meurent en état de grâce. Ceux qui se sauvent, dit le père Torrens, c'est par la grâce du Seigneur. Ceux qui se perdent, c'est par leur faute. L'Église a toujours laissé libre cette question. Il n'y a aucun décret dogmatique sur ce point. Dans l'une des oraisons du Missel, nous récitons « Ô Dieu qui seul connaissait le nombre des prédestinés au bonheur éternel. et elle nous rappelle son infinie miséricorde. Ô Dieu, dont la miséricorde est innombrable et dont le trésor de bonté est infini. Mais cela n'empêche pas que, humblement, sans donner cette doctrine pour définitive, sans lui accorder aucune note théologique, puisque l'Église ne l'a pas fait, sans imposer à personne notre façon de penser, nous puissions soutenir que le nombre des élus est relativement petit, si on le compare au nombre des damnés, et cela en nous appuyant sur les raisons qui seront analysées dans les chapitres suivants. À la page 135, il y a aussi des choses intéressantes qu'il dit, toujours le père Torrens dans son livre « Le du nombre des élus ». Page 135, en bas de la page. Il cite les témoignages de l'Écriture. « Pourquoi chercher, dit-il, les opinions des pères et des théologiens, puisque la Sainte Écriture tranche si clairement la question ?» En fait, hein, celui qui parle du petit nombre relatif des élus, c'est pas un saint ni un théologien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, qui est bien au-dessus des saints et des théologiens. Parcourez l'Ancien et le Nouveau Testament et vous y trouverez une multitude de figures, de symboles et de paroles qui font clairement ressortir cette vérité. Il en est très peu qui se sauvent. Au temps de Noé, tout le genre humain fut submergé par le déluge et 8 personnes seulement furent sauvées dans l'arche. Or cette arche, dit saint Pierre, était la figure de l'Église. Et ces 8 personnes qui se sauvent, reprend saint Augustin, signifie qu'il y a très peu de chrétiens de sauvés parce qu'il y en a très peu qui renoncent sincèrement au siècle et que ceux qui n'y renoncent que de paroles n'appartiennent point au mystère représenté par cette arche. La Bible nous dit encore que 2 Hébreux seulement sur 2 millions entrèrent dans la terre promise après la sortie d'Égypte et que 4 personnes seulement échappèrent à l'incendie de Sodome et des autres villes infâmes qui périront avec elles. Tout cela signifie que le nombre de réprouvés qui doivent être jetés au feu comme de la paille l'emporte de beaucoup sur celui des élus et que le Père Céleste doit ramasser un jour comme un froment précieux dans ses greniers. Je n'en finirai point s'il me fallait exposer ici toutes les figures par lesquelles les livres saints confirment cette vérité. Contentons-nous d'écouter l'oracle vivant de la sagesse incarnée. Que répondit notre Seigneur à ce curieux de l'Évangile qui lui demandait « Seigneur, y aura-t-il peu à se sauver ?» Garda-t-il le silence ? Répondit-il en hésitant ? Dissimula-t-il sa pensée dans la crainte d'effrayer la foule ? Non. Interrogé par un seul, il s'adresse à tous ceux qui étaient présents. Vous me demandez, mais, leur dit-il, s'il en est peu qui se sauvent, voici ma réponse. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront. Qui parle ici ? C'est le Fils de Dieu, la vérité éternelle, qui dit plus clairement encore dans une autre occasion, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Mais il leur dit, beaucoup sont appelés, c'est-à-dire comme l'explique saint Grégoire, qu'entre tous les hommes, beaucoup sont appelés à la vraie foi, mais parmi eux, il n'y en a peu qui se sauvent. Ces paroles, mes frères, sont de notre Seigneur Jésus-Christ. Sont-elles claires ? Elles sont vraies. Dites-moi maintenant s'il est possible d'avoir la foi dans le cœur et de ne pas trembler. Alors, il est évident que ces phrases, mes bien chers frères, ne sont pas données pour nous faire peur sans raison. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un tortionnaire. Au contraire, toutes ces grandes vérités, surtout celles extraordinaires, très fortes, qui est exprimée dans les chapitres, au chapitre 7 de saint Matthieu, versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieuse la voie qui conduit à la perdition, il y a beaucoup qui entrent par elle, qu'étroite est la porte, et resserrée la voie qui conduit à la vie, et qu'il y en a peu qui se la trouvent. » Cette vérité, mes bien chers frères, c'est ce qu'on appelle le grand missionnaire du ciel. Une preuve de la miséricorde infinie du bon Dieu pour nous. Parce que beaucoup de gens se sauvent grâce à ces vérités. C'est une création, si vous voulez, de la miséricorde infinie du bon Dieu pour nous. Parce que le bon Dieu nous aime, il veut nous sauver. Et puisque nous ne voulons pas nous sauver par nos propres, nous pouvons pas nous sauver par nos propres forces, et que souvent nous sommes trop faibles pour nous mettre sur la bonne voie par amour de Dieu, eh bien le bon Dieu va nous obliger en quelque sorte à nous sauver. Et il veut nous obliger à nous sauver en nous faisant méditer l'enfer. C'est pour ça que l'enfer est le grand missionnaire du ciel, une création de la miséricorde infinie du bon Dieu, parce que des tas de gens se sont sauvés grâce à leur foi en l'enfer. S'ils ne croyaient pas en l'enfer, si l'enfer n'existait pas, beaucoup de gens seraient peut-être sans doute aujourd'hui en enfer, justement, parce que le plus grand coup du démon, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Donc accrochons-nous à la doctrine traditionnelle de l'Église. Encore une fois, les textes sont clairs. Nous sommes maintenant à la page 14 sur le polycopier, en bas de la page 14, versets 15 à 20. Voilà ce que dit saint Matthieu. « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis et qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à part leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des ronces ? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. » C'est le principe de causalité. Il n'y a pas d'effet sans cause. Si la cause est bonne, les effets sont bons. Si la cause est mauvaise, les effets sont mauvais. Ces faux prophètes, disent les pères, ne devaient pas être des païens faciles à reconnaître, mais des séducteurs cachés sous le nom de chrétiens. Aussi, ne dit-il pas « regardez, mais prenez garde ». En effet, quand une chose est évidente, on la regarde, c'est-à-dire qu'on la voit naturellement, et si au contraire elle offre quelque incertitude, on y prend garde, c'est-à-dire qu'on l'examine avec précaution. Et ces grandes vérités doivent nous faire justement réfléchir, pour nous faire comprendre à quel point le problème de notre salut est important. En lisant les textes évangéliques, on comprend que Dieu est venu pour sauver les âmes. Et comme le salut des âmes, c'est quelque chose d'important, il a fallu que notre Seigneur Jésus-Christ mourût sur la croix le vendredi saint pour nous sauver. Passons à la page 15 sur le polycopier. Donc je reprends ici certains des textes des pères de l'Église. J'ai pas tout pris, j'ai pas le temps, je peux pas te donner tous les textes. Pour ceux qui veulent encore une fois aller plus profondément dans la doctrine de l'Église, dans l'exégèse, reprenez les originaux de ces textes dont je vous parle. Je vous rappelle que tout ce cours que je vous donne, tous les textes écrits sur le polycopier, vient simplement de trois livres. Donc il y a Cornelius à Lapide dans son grand commentaire sur les évangiles, il y a le père Thirier, et il y a également saint Thomas d'Aquin dans son livre fondamental qui explique les évangiles, la chaîne d'or. Donc n'hésitez pas à reprendre ces livres. À ma connaissance, je vous l'ai déjà dit cela, à ma connaissance, Cornelius à Lapide n'est pas traduit en français, c'est bien dommage. Mais vous pouvez obtenir les textes de saint Thomas d'Aquin, la chaîne d'or, et Thirier a écrit en français directement. Donc voilà ce que disent les pères. Les docteurs catholiques qui deviennent esclaves de la chair, lorsqu'ils succombent aux passions de la chair, ne sont pas appelés pour cela des loups ravissants, parce qu'ils ne cherchent pas à perdre les chrétiens. Il est donc évident qu'il veut parler ici, que notre Seigneur ici veut parler des docteurs hérétiques qui prennent l'extérieur des chrétiens pour déchirer plus facilement les fidèles sous les coups d'une séduction criminelle. Et saint Pilis l'avait dit, le grand danger qui règne actuellement avec le modernisme, c'est que les modernistes travaillent à l'intérieur de l'Église. À l'intérieur de l'Église. D'où cette nécessité absolue, mes bien chers frères, de faire une distinction entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II. C'est-à-dire que quels sont ceux qui justement sont des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis et qui au-dedans sont des loups ravisseurs? Moi j'en connais un qui s'appelle Bergoglio. Certainement que Bergoglio est un des pires des faux prophètes et des loups ravisseurs. Pourquoi? Parce qu'il se présente comme s'il était pape, alors qu'il ne l'est plus. Qui ne l'est pas, qui n'a sans doute jamais et qui n'a jamais été. Il est vraisemblablement même pas prêtre, même pas évêque, puisqu'il a été ordonné prêtre et consacré évêque après les changements qui sont intervenus dans l'Église de Vatican II concernant le texte des ordinations sacerdotale et des consécrations épiscopales en 1968. Il faut voir les choses en face, mes bien chers frères. Lorsque les gens, c'est une question qui m'est très souvent posée, lorsque les gens me demandent mais pour vous, qui est François? Qui est Bergoglio? Je réponds, François Bergoglio est le pape de l'Église de Vatican II. Notre Seigneur Jésus-Christ nous sauve par l'Église catholique, pas par l'Église de Vatican II. Il paraît donc assez vraisemblable, disent les pères, page 15 sur le polycopier, que ces faux prophètes, par ces faux prophètes, notre Seigneur veut désigner non pas les hérétiques, Mais ceux qui mènent une vie corrompue sous les dehors de la vertu. Vous voyez, il y a plusieurs explications données par les pères de l'Église. Ces explications sont variées. Donc pour certains, ça représente les hérétiques. Pour d'autres, ces faux prophètes représentent les mauvais catholiques. Il est sûr que les mauvais chrétiens sont les pires des ennemis de l'Église. Ceux qui mènent une vie corrompue sous les dehors de la vertu. Parce qu'il y a en plus l'hypocrisie. C'est pour cela qu'il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce n'est toutefois pas une raison pour les brebis d'avoir horreur de ses vêtements, parce qu'ils servent pour quelquefois à couvrir les loups. Donc méfions-nous des séducteurs, justement, qui cachent leurs mauvaises intentions sous une peau de brebis. À quel fruit donc reconnaîtrons-nous un mauvais arbre? Voilà l'enseignement de l'apôtre Saint Paul. Les œuvres de la chair sont évidentes. Donc on va reprendre ici ensemble le texte de l'épître de Saint Paul aux Galates chapitre 5. Donc voilà ce texte auquel font référence les pères de l'Église. C'est une partie de l'épître de Saint Paul aux Galates à partir du verset 16 du chapitre 5 de Saint Paul aux Galates. Voilà ce que dit Saint Paul. Je le dis, laissez-vous conduire par l'esprit et vous ne donnerez pas satisfaction aux convoitises de la chair. Oui, par ses désirs, la chair va contre l'esprit, par les siens, l'esprit contre la chair. Entre les deux, c'est l'opposition. Si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez, mais si c'est l'esprit qui vous conduit, vous n'êtes pas sous la loi. Elles sont bien connues, les œuvres de la chair. Donc Saint Paul va citer ces œuvres de la chair. Ce sont la fornication, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, la discorde, l'envie, l'emportement, les emportements, les cabales, les dissensions, les factions, les jalousies, les beuveries, les orgies et autres choses semblables. Je vous en préviens, comme déjà je vous ai prévenu, ceux qui font de pareilles choses ne posséderont pas le royaume de Dieu. Puis il va citer au contraire les fruits du bon esprit, les fruits de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que produit l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la longanimité, la mansuétude, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de pareilles choses, il n'y a pas de loi. Donc là, il vient apparaissent ici ce qu'on appelle les 12 fruits du Saint-Esprit. Ceux qui appartiennent, dit Saint Paul, ceux qui appartiennent au Christ, Jésus ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, que notre conduite soit aussi inspirée par l'Esprit. N'ayons pas de vaine gloire entre nous, pas de provocation entre nous, pas de jalousie. On voit très bien, encore une fois, que Saint Paul reprend l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est les deux voies, la voie large et la voie étroite. La voie large, c'est celle des péchés qui vont contre l'Esprit, donc qui sont cités ici par Saint Paul. Et la voie étroite, c'est au contraire les fruits du Saint-Esprit. Rappelons-nous surtout les trois premiers, la charité, la joie et la paix. Alors cela doit nous aider à garder la tête bien sur les épaules. Le plus important, c'est celui de notre âme. On verra ça avec d'autres textes dans les évangiles. Donc, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont donc ces fruits du mauvais esprit que je viens de citer en Galates chapitre 5. Et le même apôtre nous apprend à connaître les fruits du bon arbre, les fruits qui commencent par la charité, la joie et la paix. Donc les fruits du Saint-Esprit représentent les conséquences du bon arbre, les fruits du bon arbre, au contraire, les fruits du mal, les fruits du mauvais, les fruits du démon représentent le mauvais arbre. Et un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits, un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Donc les fruits que produit l'homme juste, disent les pères, c'est aussi la confession de la foi, car celui qui, en suivant l'inspiration de Dieu, fait en toute humilité une véritable confession de foi, celui-ci est une brebis, tandis que celui qui fait entendre contre la vérité et contre Dieu les hurlements de blasphème est un loup. On voit très bien aujourd'hui qu'il y a un choix à faire, malheureusement, ce choix est de plus en plus évident. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on voit très bien qu'il y a... C'est, encore une fois, c'est la phrase de Saint-Augustin, « Deux amours ont fait deux cités. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité du ciel. L'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. » C'est clair. L'Église de Vatican II, c'est quoi? C'est l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu, jusqu'au mépris des commandements de Dieu. C'est donc la cité terrestre, la cité du démon. L'Église catholique, au contraire, c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même. C'est la cité céleste. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nul ne peut à la fois plaire au bon Dieu et à Mammon. À la fois plaire au bon Dieu et au monde. Alors, voyons un petit peu maintenant avec les pères. Voyons un petit peu avec les pères le sens de ces fruits dont parle Saint Matthieu ici. Donc, il parle de deux fruits, les raisins et les figues. Voilà ce qu'il dit. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les ronces? Donc, que représentent ces deux mots, les raisins et les figues? Ben, voilà ce que disent les pères. Le raisin est une figure mystérieuse du Christ. Car de même, disent-ils, disent les pères, que la grappe, et par l'intermédiaire du bois de la vigne, tient suspendu des grains nombreux, ainsi le Christ, par le bois de la croix, retient dans une étroite union la multitude des fidèles. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ parle souvent, prend souvent comme comparaison les sarments et les grains de raisin. Donc les sarments et les grains de raisin sont une figure, le raisin c'est une figure de l'Église, une figure du Christ. On peut dire vraiment une figure du Christ lui-même. Pourquoi? Les pères expliquent, parce que le raisin est tout ensemble un symbole de patience, de joie, de sincérité. Symbole de patience, parce qu'il est foulé dans le pressoir, il est écrasé par les pieds des hommes pour faire sortir le vin nouveau. Il est symbole de la joie, parce qu'il réjouit le cœur de l'homme. Et il est symbole de la sincérité, parce qu'il n'est pas mélangé d'eau et de la suavité par le plaisir qu'il donne. Et une pureté dans le vin, si vous voulez, qui représente la sincérité. Donc ça, c'est pour le raisin. Donc le raisin, si vous voulez, représente le Christ lui-même, hein, de même que le Christ va être, si vous voulez, au Vendredi Saint, plus exactement au Jeudi Saint, au soir, dans le Jardin des Oliviers, il va être pressé pour que sorte de sa passion l'huile de la grâce. C'est pour cela qu'il va commencer sa passion au Jardin de Gethsémani, au Jardin du Pressoir. Il y avait dans ce jardin, dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ aimait prier, il y avait un pressoir à olives. Donc de même qu'on écrase les noyaux d'olives pour en faire sortir l'huile d'olive, de la même façon, le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ va être écrabouillé, écrasé sur la croix pour en faire sortir, par l'ouverture de son sacré cœur, toutes les grâces nécessaires. Et le raisin est pour cela une figure du Christ. La figue, au contraire, disent les pères, c'est une figure de l'Église, qui retient aussi la multitude de ses enfants dans les 12 embrassements de sa charité, comme la figue tient cachée une quantité considérable de graines sous une seule enveloppe. La figue est le signe tout à la fois de la charité par sa douceur et de l'unité par l'union de ses graines. Au contraire, donc, les épines et les ronces représentent des pointes de toutes parts. Donc, dans le raisin, si vous voulez, et dans la figue, il y a un esprit de douceur, l'esprit de charité, le premier des fruits du Saint-Esprit. Rappelez-vous, la charité, la paix et la joie. Donc, le raisin et la figue, si vous voulez, rassemblent, sont un symbole de notre Seigneur Jésus-Christ qui rassemble tous ses enfants sous ses ailes, comme une poule rassemble ses poussins sous son aile. Au contraire, les épines et les ronces, par ces épines, ces pointes de toutes parts, représentent justement les démons ou les serviteurs des démons qui sont pleins d'iniquité, de quel côté qu'on les considère. Car ces ronces et ces épines ne peuvent produire aucun des fruits que demande l'Église. Lorsque la graine, le bon grain, tombe dans les épines, dit l'Évangile à un autre lieu, eh bien la plantule qui va commencer à pousser ne peut pas se développer, ne donnera pas de fruits. Pourquoi? Parce que les épines des ronces vont empêcher le développement normal de la plante. Eh bien, ces épines qui enserrent la plante et qui empêchent la plante de se développer et donner du bon grain, c'est le symbole du monde. L'esprit du monde, l'esprit de la liberté, d'égalité, de fraternité vont enserrer les âmes et empêcher les âmes de se développer. Et notre Seigneur Jésus-Christ a bien dit qu'il fallait reconnaître les fruits. Je veux dire, l'arbre a ses fruits. On voit très bien, on peut appliquer ce que je viens de vous dire à la différence qui existe entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II. Où sont les fruits de l'Église de Vatican II? Donnez-moi un seul bon fruit de l'Église de Vatican II. On le voit, la perte des âmes, la destruction des âmes, alors qu'au contraire, l'Église catholique a toujours entraîné le salut des âmes. Or, on a été sauvé pour sauver notre âme. Rappelez-vous le début des exercices de Saint Ignace. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Cet arbre, donc bon ou mauvais, c'est l'homme suivant que sa volonté est bonne ou mauvaise. Les fruits, ce sont les œuvres qui ne peuvent être bonnes si la volonté est mauvaise, de même qu'elles ne peuvent être mauvaises si la volonté est bonne. Donc, tout va dépendre de la fin pour laquelle on agit. C'est la fin, si vous voulez, qui va donner la bonté aux fruits, ou au contraire, la fin qui va classifier ces fruits parmi les fruits mauvais parce que justement la fin est mauvaise. Donc quelle est la fin? Quel est le but? J'ai repris ici d'autres textes des Pères. C'est en bas de la page 15 sur le polycopier. C'est un supplice intolérable que le supplice de l'enfer. Et que l'on ajoute 10 000 enfers à la suite les uns des autres, jamais ce supplice ne sera comparable à la peine d'être à jamais exclu de la gloire des bienheureux et d'être éternellement haï de Dieu. Ce qu'on appelle la peine du damné. Rappelez-vous l'enseignement de l'Église sur les peines de l'enfer. Il y a deux peines en enfer parce qu'on pêche avec son corps et avec son âme. Donc il y a une peine qui va être plus un châtiment pour le corps et une peine qui va être donnée par Dieu, plus pour le châtiment de l'âme. La peine du corps, c'est la peine qu'on appelle la peine du feu, la peine d'essence. Donc l'existence d'un feu réel, d'un feu physique en enfer qui brûle sans consumer. Et la peine des âmes, ce qu'on appelle la peine du damné. C'est une peine beaucoup plus difficile à comprendre. C'est la peine par laquelle, si on a le malheur de mourir à un tas de péchés mortels, notre âme ne verra jamais Dieu, aussi longtemps que Dieu est Dieu. Alors, les pères ici vont citer un certain nombre d'hérétiques pour essayer d'entraîner les âmes loin de Dieu. Donc, les pères ici citent certaines de ces hérésies, et je les ai résumées ici dans les textes des pères, en bas de la page 15 sur le polycopier. Les manichéens, c'est les cathares. Les cathares, les albigeois, les manichéens, c'est la même hérésie. Les manichéens ont voulu expliquer que certains hommes étaient bons par nature et certains mauvais, qu'il y avait deux principes naturels, l'un bon qui faisait les hommes bons et l'autre mauvais qui faisait des hommes mauvais. Donc littéralement deux dieux, le dieu du corps qui est un dieu mauvais, le dieu de l'esprit qui est un dieu bon. Vous voyez un petit peu les conséquences, entre autres au niveau du mariage. Vous savez que c'est Saint Dominique qui a été chargé par la très sainte Vierge Marie de prêcher le rosaire pour commencer à lutter contre les cathares, donc contre le manichéisme. Et Saint Augustin, en son temps, avait déjà utilisé son intelligence prodigieuse pour lutter contre le manichéisme. Autre hérétique, Jovinien, qui maintenait qu'un homme qui est né de Dieu ne pouvait pas pécher. Donc c'est un peu du protestantisme déjà avant l'heure. Rappelez-vous ce que disait Martin Luther, pêche fortement et croit plus fortement encore. On est sauvé par la foi, donc du moment qu'on croit que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort sur la croix pour me sauver, je suis sauvé, même si je suis comme un cochon. Après les Pélagiens, le pélagianisme, les Pélagiens pensaient qu'il n'y avait pas de péché originel, car à partir d'un bon mariage, comme à partir d'un bon arbre, un mauvais fruit comme le péché ne pouvait pas être produit. C'est une objection intelligente, malheureusement dangereuse. N'oublions pas que dans l'église de Vatican II, c'est clair et net. Pratiquement, dans l'église de Vatican II, il ne parle plus du tout du péché originel, il n'y croit plus. Et donc, puisqu'il n'y a plus de péché originel, il n'y a plus de péché. Et s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus besoin de rédemption, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour rappeler, pour détruire les conséquences, le péché et ses conséquences. Donc, s'il n'y a plus de péché, parce qu'il n'y a plus de péché originel, on détruit donc complètement la nécessité même de l'incarnation et de la rédemption. Si on détruit l'incarnation et la rédemption, on détruit toute l'église, il n'y a plus besoin d'église. On voit très bien dans l'Église de Vatican II, le but de l'Église de Vatican II, c'est quoi? Le but de l'Église de Vatican II, c'est d'aider les gens à se sentir bien sur la terre. Alors qu'au contraire, le but de l'Église catholique, c'est d'aider les gens à monter au ciel. Pas du tout pareil. Autre hérétique, les donatistes. Un grand docteur de l'Église, pourtant, un grand, grand père de l'Église, Tertullien, était tombé malheureusement dans cette hérésie. Les donatistes disaient que les mauvais prêtres, comme des mauvais arbres, ne peuvent baptiser proprement. Alors ça, c'est faux. Parce que pourquoi? Parce que le sacerdoce donne un caractère sacerdotal, et ce caractère sacerdotal demeure dans l'âme du prêtre, même si, malheureusement, dans sa vie privée, il ne suit pas la règle de l'Église, les principes de l'Église. Ensuite, autre hérésie, les protestantistes, les calvinistes, qui prétendaient que la volonté libre n'existait pas dans l'homme pour amener des bonnes ou des mauvaises choses, ou des mauvaises œuvres. Nous ne sommes donc pas justifiés par les bonnes œuvres, mais simplement déclarés bons, car un arbre n'est pas fait bon par ses bons fruits, mais est manifesté comme bon par eux. On voit très bien donc, toutes ces difficultés dogmatiques, vous voyez, toutes ces erreurs dogmatiques qui partent en fait tout simplement du libre arbitre. Le libre arbitre, je fais ce que je veux, je décide par moi-même quelle est ma vérité, je décide par moi-même ce qui est bien mal. Rappelez-vous la fausse promesse du démon à Adam et Ève, par lesquelles il a roulé Adam et Ève dans la farine. Et la dernière promesse, c'est ça, c'est tu décideras par toi-même ce qui est bien mal parce que tu es devenu comme Dieu. Il faut souvent méditer ces quatre mensonges du démon. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, et parce que vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez par vous-même ce qui est bien et mal. On appelle la liberté de conscience. Voilà pourquoi l'Église catholique a toujours très fermement condamné la liberté de conscience. Alors, dans l'Église de Vatican II, on voit très bien la base de tout, c'est la liberté de conscience. Il suffit de lire les textes de Vatican II sur la dignité de la personne humaine, et vous en rendez vite, vite compte. Donc, toutes les affirmations que je viens de citer, des manichéens, des joviniens, des pélagiens, des donatistes, des calvinistes, sont fausses. Car le Christ lui-même applique ces passages de Saint Matthieu au prophète, vrai ou faux, maître de doctrine. Passons à la page 16 du Polycopier, les versets 21 à 23 de Saint Matthieu chapitre 7. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là, il entrera dans le royaume des cieux. Beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en votre nom et chassé des démons en votre nom et fait de nombreux miracles en votre nom? Alors je leur dirai hautement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors voilà les commentaires des pères. Nous ne devons pas nous laisser tromper d'abord par ceux qui, se couvrant du nom du Christ invoque ce nom sans en pratiquer les œuvres. Mais nous devons encore nous défier de certains prodiges, de certains miracles tels que le Seigneur en opère en faveur des infidèles, tout en nous avertissant de ne pas nous laisser surprendre et ne pas croire que ces miracles soient l'indice certain d'une sagesse intérieure et invisible. Faire attention justement à ne pas mélanger la fausse sainteté et la vraie véritable sainteté. Il y a eu des faux miracles chez les protestants. Et le démon étant le singe de Dieu est capable d'imiter les miracles du Christ et les miracles des apôtres. N'oublions pas qu'il ne peut pas y avoir de miracle dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits, c'est pas possible. L'église de Vatican II étant une fausse église ne peut pas être une église qui fait des miracles, c'est impossible. Donc ici, les pères, il y a ce passage, deuxième paragraphe, sous le verset 23, page 16, dans les Polycopiers, donc un paragraphe là, très important donc, qui explique ce qu'est le mal du siècle, à savoir le libéralisme. Il chasse aussi les démons au nom de Jésus-Christ, tout en ayant l'esprit même de son ennemi, ou plutôt, il les chasse en apparence et non en réalité, les démons étant en parfaite intelligence entre eux. Et donc là, il faut faire très attention à bien comprendre cette phrase, cet avertissement des pères de l'Église. Hein? On ne peut pas prétendre suivre notre Seigneur Jésus-Christ si dans notre vie pratique, nous suivons les principes des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quels sont les principes des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ? Il y en a trois. pour la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est les trois principes maçonniques. Dans toutes les révolutions, on retrouve toujours la même phrase: liberté, égalité, fraternité. Protestantisme, liberté, égalité, fraternité. Franc-maçonnerie, liberté, égalité, fraternité. Révolution de 1789, liberté, égalité, fraternité. Révolution de Vatican II, liberté, égalité, fraternité. Hein? Donc on voit très bien dans l'Église de Vatican II cette prédication constante en mettant l'homme au centre pour diviniser l'homme et demander finalement au bon Dieu de partir. Hein? Alors les conséquences de ce que je viens de vous dire sont énormes dans la vie de tous les jours. Donc on peut pas se présenter, prétendre être un véritable contre-révolutionnaire si dans la vie pratique nous suivons les principes mêmes de la révolution. Tout le drame est là. Beaucoup de catholiques veulent bien lutter contre la révolution, mais à condition de garder dans leur maison de tous les jours, dans leur vie de tous les jours, de garder les principes révolutionnaires. Un catholique, c'est quelqu'un qui dit non, non à la révolution. Et comme la révolution attaque sur tous les domaines, donc il faut être capable de dire non dans tous les domaines dans lesquels l'esprit du monde essaie de s'introduire dans nos âmes. Donc la première condition pour être un bon contre-révolutionnaire, c'est d'être en état de grâce. Si je ne suis pas en état de grâce, je ne peux pas prétendre être un contre-révolutionnaire. Je peux prétendre être de la vérité, mais à mon absence de haine de l'erreur, disait Ernest Hello, à mon absence de haine de l'erreur, je montrerai aux gens qui sont autour de moi que je ne fais pas partie de ceux qui suivent la vérité. Quid illegitis hominum, quid illegitis dominum, odite malum, disait le roi David. Celui qui aime Dieu doit haïr le péché. Si je n'ai pas de haine pour l'esprit du monde, si je n'ai pas de haine pour l'esprit révolutionnaire, si je n'ai pas de haine pour les principes maçonniques de liberté, d'égalité, de fraternité, je suis un faux contre-révolutionnaire. Donc tous ceux, on voit très bien en France, sur le plan politique, tous ceux qui en France essayent d'être contre-révolutionnaires en suivant les principes mêmes qui ont détruit la France chrétienne, perdent leur temps. Perdent leur temps. Donc tous ceux qui essaient de faire quelque chose sur le plan politique, mais qui suivent les principes qui ont détruit la France, à savoir la liberté, l'égalité, la fraternité, perdent leur temps complètement. C'est pour cela qu'on n'obtient rien en matière politique quand on n'est pas en état de grâce. On le voit très bien autour de nous, où tous ceux qui se présentent comme contre-révolutionnaires sont des gens qui vivent dans le péché en général jusqu'au cou. Pas tous, bien sûr, Dieu merci, il y a quelques exceptions, mais c'est vraiment les exceptions qui confirment la règle. Alors attention aussi à un détail ici, bien expliqué par les pères, c'est que le fait de faire des miracles n'est pas forcément une preuve de sainteté. Dieu avait donné à Judas le don de faire des miracles. Judas lui-même n'a-t-il pas fait plusieurs miracles avec les autres apôtres quand son âme était déjà ouverte à la trahison? La tradition nous dit que tous les apôtres ont fait des miracles, parce qu'ils avaient tous reçu le don des miracles, y compris Judas. Et malgré les miracles de Judas, Judas s'est damné. Autre texte des pères, tous n'avaient pas les qualités au même degré de perfection. Les uns menaient, il est vrai, une vie pure, mais sans avoir une foi aussi grande. Pour les autres, c'était le contraire. Dieu convertissait donc les premiers par les seconds, les amenait à faire profession d'une foi plus vive. Et par le don ineffable des prodiges qu'il accordait aux autres, il les appelait à devenir plus vertueux et leur communiquait ce pouvoir avec une plus grande libéralité. Donc cette sentence, nous disent les pères, doit nous apprendre que c'est l'humble charité et non l'éclat des miracles qui a droit à notre vénération. La charité, c'est quoi? C'est l'état de grâce, c'est ça qui compte. Aussi, la Sainte Église n'a-t-elle que du mépris pour les miracles des hérétiques parce qu'elle sait qu'ils ne sont pas une marque de sainteté. En effet, la preuve de la sainteté n'est pas de faire des miracles, c'est d'aimer le prochain comme soi-même, d'avoir sur Dieu des idées vraies et des autres une opinion plus favorable que soi-même. C'est une phrase des pères de l'Église sur laquelle nous faut méditer. La preuve de la sainteté n'est pas de faire des miracles. Ce n'est pas des miracles en tant que tels qui rendent quelqu'un saint. Encore une fois, l'exemple de Judas est là pour nous le confirmer. Alors avançons dans le texte de saint Matthieu, nous en sommes toujours au chapitre 7, versets 24, 25, 26 et 27. Ainsi donc, dit notre Seigneur, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur la pierre. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont précipités sur cette maison, elle ne s'est point écroulée, car elle était fondée sur la pierre. Et quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont précipités sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Si je me présente comme contre-révolutionnaire, mais que je vis tranquillement dans le péché mortel, je construis sur le sable. J'essaie de construire une fortification contre-révolutionnaire sur le sable. Il n'y a pas de fondation. S'il n'y a pas de fondation, la fortification va s'écrouler. C'est absolument évident. Donc, il faut construire notre maison sur la pierre. Et ce roc, c'est la force de la foi. Le Christ est ce symbole est représenté par le symbole du roc, du rocher. Donc, voyons un petit peu les explications des pères sur ces termes utilisés par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en bas de la page 16 sur le polycopier. L'insensé, disent les pères, le fou, c'est le démon qui a bâti sa maison, l'ensemble des impies, sur le sable, c'est-à-dire sur la terre sans consistance de l'infidélité ou sur les hommes charnels, qu'il a comparé au sable à cause de leur stérilité et leur défaut d'union entre eux, de la diversité des opinions qui les divisent, comme aussi de leur multitude innombrable. Le nombre des fous sur la terre est énorme, immense, et comparé donc au grain de sable, qui est très important. Donc, celui qui construit sur le sable, c'est celui qui pêche par infidélité. Infidélité à qui? Infidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. La pluie qui va tomber contre cette maison, c'est la fausse doctrine, dont l'esprit de l'homme est comme arrosé. Page 17. Les nuages sont les sources qui répandent la pluie. Ces nuages sont souvent poussés par l'Esprit Saint comme les apôtres et les prophètes. D'autres suivent l'impulsion du démon, ce sont les hérétiques. Donc il y a des bons nuages qui vont amener une bonne pluie qui va vraiment arroser les plantes et un nuage qui va amener des catastrophes, qui va amener des gros orages. Des nuages qui vont amener des gros orages, une pluie beaucoup trop forte et une grêle même qui vont détruire complètement toutes les plantations. Les vents, ensuite, il y a les bons et les mauvais. Les vents favorables sont les esprits qui inspirent les différentes vertus. Les anges qui agissent d'une manière invisible dans le sens, sur les sens de l'homme pour les amener à faire le bien. Les vents sont donc les anges et les grâces spirituelles. Mais les vents mauvais, les vents d'ouragan, sont les esprits impurs. Les fleuves salutaires sont les évangélistes et les docteurs, disent les pères. Et les fleuves dont les eaux sont désastreuses, ceux qui sont remplis d'esprits immondes, dont toute la science consiste dans des discours sans fin, comme les philosophes et les maîtres de la science profane, du sein desquels coulent des fleuves d'une eau morte. Donc l'eau aussi peut être vivante ou morte. Prenez l'eau par exemple de la mer morte qui est maintenant à l'endroit même où étaient les deux cités de Sodome et Gomorre, qui ont été détruites par le bon Dieu, qui ne pouvait pas supporter, qui ne peut toujours pas supporter les péchés contre nature de Sodomie. Eh bien, c'est à la place de ces deux villes de Sodome et Gomorre, historiquement parlant, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a la mer morte. La mer morte, c'est une eau qui ne donne aucun fruit. Vous arrosez votre jardin avec l'eau de la mer morte, au lieu de faire croître les plantes du jardin, les plantes du jardin vont crever, vont mourir immédiatement, parce que c'est une eau qui est chargée de sel et de bitume. Au contraire, il y a une eau douce et favorable, qui est l'eau de la pluie, qui va arroser, qui va irriguer, permettre aux plantes de se développer normalement. Donc, reprenons un peu ces textes. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va parler d'une maison. Alors, on le voit ici dans ce texte. Est-ce que c'est? Attendez. C'est la page. Je me retrouve dans mes papiers là. Notre Seigneur fait allusion à la maison construite ou sur le roc fut construite sur le sable. Donc voyons un petit peu ce que disent encore les pères de l'Église sur ce sujet. Donc la maison, c'est-à-dire la gentilité, est tombée pour faire place à Jésus-Christ qui s'est élevé sur ses ruines. Et sa ruine a été plus grande, toutes les erreurs ayant été dissipées, le mensonge confondu et les idoles détruites sur toute la face de la terre. Donc ce roc qui va remplacer le sable, eh bien justement, symbolise l'Église catholique. Donc, il y a plus d'explications qui sont données par les pères. J'ai résumé un peu tout ça, page 17. Donc, celui qui écoute donc la parole de Jésus-Christ et la met en pratique est semblable au Christ, car il bâtit sur la pierre, c'est-à-dire sur le Christ, qui est le principe de tout bien. De manière que tout homme qui construit sur le bien, de quelque nature qu'il soit, construit sur Jésus-Christ. Le roc représente notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, Saint Moïse dans le désert, qui va frapper de la verge de Moïse, il va frapper de son bâton le roc, pour abreuver à partir du roc. Le roc va s'ouvrir et une source miraculeuse très importante va commencer à couler à partir de ce roc frappé par Moïse. Et de cette eau miraculeuse, tous les troupeaux et tous les Hébreux, dans leur totalité, vont pouvoir s'abreuver à cette eau miraculeuse pour survivre. Et bien, c'est le symbole évidemment du Sacré-Cœur sur la croix qui est ouvert par la lance et qui, une fois ouvert, va pouvoir abreuver les fidèles qui, affamés et déshydratés, viennent chercher l'eau salutaire de la grâce. De même donc que l'Église bâtie par Jésus-Christ ne peut être renversée, de même le chrétien dont nous parlons, qui a construit sur Jésus-Christ, ne peut être renversé par aucune adversité d'après ses paroles. Qui nous séparera de la charité du Christ? Au contraire, celui qui entend les paroles et ne les met pas en pratique est semblable au démon. Et comme ces textes sont très importants, Matthieu 7, 26. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle s'est écroulée, sa ruine a été grave, était grande. Donc si j'écoute les paroles du bon Dieu et je ne les mets pas en pratique, je ressemble donc à quelqu'un qui a fondé sa maison sur le sable. Donc rien ne tient, il n'y a pas de fondation. Toute l'importance des fondations, mes bien chers frères. Les fondations, c'est quoi ? La fondation de notre foi catholique, c'est l'état de grâce, c'est ça la fondation. C'est pour cela que Saint Ignace, dans son exercice Saint Ignace, appelle la première méditation le principe et fondement. Il établit les fondations de la maison qu'on veut construire. Si les fondations sont solides, la maison tiendra contre les vents, contre les ouragans, contre les tsunamis, contre tout. Si au contraire, la maison n'est pas fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ, elle est fondée sur le sable et tout s'écroule parce qu'il n'y a pas de fondation. Alors, les pères de l'Église expliquent bien ces choses-là au milieu de la page 17. Voilà ce qu'ils disent. Les paroles qu'on écoute sans les mettre en pratique sont bientôt séparées et dispersées. Et c'est pour cela qu'on les compare au sable. Chagrin est indépendant. Dans le sable. Et donc, on ne peut rien construire parce qu'il n'y a pas de cohésion entre les grains. Le sable représente la malice, ou encore tous les biens de la terre. De même que la maison du démon est bientôt renversée, ainsi tombent et sont détruits ceux qui ont assis leur fondement de leur édifice, les fondements de leur édifice sur le sable. La ruine est grande si elle atteint les fondements de la foi. Elle est moins grande si on s'est rendu coupable de fornication et d'homicide, car on ne peut alors se relever par la pénitence à l'exemple de David. C'est des phrases très fortes des pères qui font bien comprendre que les péchés contre la foi sont bien plus graves que les péchés contre la pureté. Pourquoi ? Parce qu'on attaque les fondements même de la foi catholique. C'est pour cela que Dieu n'a pas mis tous les commandements au même niveau. Il ne faut pas oublier ça, c'est un point du catéchisme important. Dieu a donné sa loi en deux tables. Sur la première table de la loi, il y a les trois premiers commandements, 1, 2 et 3. Sur la deuxième table, il y a les commandements 4 à 10. Pour bien nous expliquer que si les premiers commandements ont Dieu directement en vue, les autres commandements 4 à 10 ont en vue nos contacts, nos rapports avec le prochain. Et le péché contre Dieu est bien plus grave que les péchés contre le prochain. C'est ce que disent ici les pères. Et donc, quand on attaque la foi, on attaque directement les trois premiers commandements. Les pluies. La pluie représente, est une figure des séductions flatteuses des voluptés qui se glissent insensiblement, pardon, par toutes les fentes ouvertes et commencent par rendre la foi moins ferme. Donc, les inondations vont emporter les grains de sable. Il n'y aura plus rien pour construire la maison. Puis vient le choc impétueux des fleuves et des torrents, c'est-à-dire les passions les plus criminelles qui ne sont plus gouvernées par la raison. Enfin, les vents se déchaînent dans toute leur violence, c'est-à-dire que le souffle de la puissance du démon entre tout entier dans l'âme. Les bruits confus du monde sont comparés au vent. D'ailleurs, ces belles images des pères, donc il y a cette comparaison très connue qu'on utilise souvent dans la prédication ou quand on donne des catéchismes aux enfants, de l'âme qui est comparée à un bateau à voile, donc qui doit traverser la mer pour aller de ce rivage au rivage du paradis, de la terre au ciel. Et ce bateau est menacé de tous côtés par les ennemis du bateau. Donc il y a les récifs, il y a les vents contraires, il y a la pluie, il y a toutes ces choses-là qui vont essayer d'empêcher le bateau d'arriver à sa bonne destination. Et donc les récifs, par exemple, d'après beaucoup de pères, les récifs représentent les hérétiques parce qu'ils sont cachés sous l'eau, on les voit mal. On peut les voir qu'à marée basse, à marée haute, on a l'impression qu'il n'y a pas de récifs. Et donc le capitaine qui connaît mal cette route va aller fracasser son navire contre les récifs et va ouvrir des voies d'eau qui vont faire couler le navire. Et donc, la pluie, disent les pères, lorsqu'elle est prise au figuré, à mauvaise part, représente la superstition couverte des ténèbres. Et les fleuves sont les passions charnelles qui s'écoulent aussi sur la terre. Donc il nous faut amener le vaisseau de notre âme au bon port, au port du salut. Autre commentaire des pères, celui qui se laisse entraîner par la prospérité se laisse aussi briser par le malheur. Au contraire, rien de tout cela n'est à craindre pour celui dont la maison est bâtie sur la pierre, c'est-à-dire qui, non content d'écouter les préceptes du Seigneur, se fait un devoir de les accomplir. Donc la maison spirituelle de l'âme, disent les pères, est la perfection des vertus, car de même qu'une maison matérielle est construite avec beaucoup de travail en s'élevant par degrés avec diverses pierres et poutres, ainsi la maison spirituelle est construite de vertus variées, de saintes opérations, par de longs travaux et de longs degrés. Donc le bon Dieu nous demande d'édifier une maison spirituelle, un temple pour notre Seigneur Jésus-Christ, parce que justement notre âme est le temple du Saint-Esprit. Alors vous avez ici, dans cette maison dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, je vous rappelle le texte, donc c'est au verset 25 du chapitre 7. La pluie est tombée, verset 24 à 25. L'homme sage, c'est celui qui a bâti sa maison sur la pierre. Au contraire, l'homme fou est celui qui a bâti sa maison sur le sable. Donc voilà ici les commentaires des pères, le sens mystique que les pères vont donner à tous ces objets inanimés dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, le sable, les pierres, les fondations, les poutres, etc. Voilà donc les explications. On verrait que les pères ont encore une fois un sens spirituel bien plus profond que le nôtre. Donc il y a un avertissement en bas de la page 17, la maison spirituelle de l'âme est la perfection des vertus. Car de même qu'une maison matérielle est construite avec beaucoup de travail, en s'élevant par degrés aux divers pierres et poutres, ainsi la maison spirituelle est construite de vertus variées, de saintes opérations, par de longs travaux et de longs degrés. On ne construit pas une maison en 5 minutes, 5 minutes, on ne construit pas non plus une maison spirituelle en 5 minutes. Donc, je rappelle les grandes lignes. Donc la pluie, lorsqu'elle est prise au figuré, en mauvaise part, représente la superstition couverte des ténèbres. Les fleuves, au contraire, les passions charnelles qui s'écoulent ainsi sur la terre. Le vent, lui, représente les bruits confus du monde. En bas de la page 17, il y a d'autres explications spirituelles. La longueur de la maison représente les souffrances, sa largeur la charité, sa hauteur l'espérance. Les quatre murs sont les quatre vertus cardinales de prudence, de justice, de force et de tempérance, et le sol est fait d'humilité, le toit de patience. La porte est l'obéissance au commandement, le portier en est la sainte crainte de Dieu, et les gardiens sont les saints anges, la tour est la contemplation. L'esprit ou l'intellect est le maître de la maison, l'époux la volonté, les enfants sont les bonnes œuvres, les serviteurs sont les sens qui obéissent à l'esprit. La table est la sainte écriture, le pain de la sainte Eucharistie, le vin du sang du Christ, l'eau vive du Saint-Esprit, l'huile de la miséricorde, le lit un esprit tranquille et paisible. Les sacrements sont les médicaments, les prêtres, les médecins, les invités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez comment les pères nous demandent de monter, d'organiser, de construire une maison qui va tenir aux ouragans, qui va tenir contre les vents qui vont se précipiter contre la maison, les vents d'ouragan, contre les inondations qui vont aussi détruire les fondements même de notre maison. Page 18 en haut, donc on trouve là l'enseignement des pères sur la phrase clé, le rocher, sur lequel va être construit notre maison. Ce rocher représente le Christ. Il construit sur le Christ celui qui fait ce qu'il entend de lui. C'est-à-dire celui qui écoute la parole du bon Dieu et la met en pratique est construit sur le rocher parce qu'il construit sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que la pluie, le vent, les rivières, les ouragans qui frappent la maison sont toutes les tentations et adversités venant du monde, de la chair et du démon. Et donc il faut lutter contre ça par justement la prière, par l'aumône et par le jeûne. Cela représente la condamnation que le Christ prononcera sur les maudits au jour du jugement. Car ces mots de tempête sont souvent exprimés dans la Sainte Écriture. Voici qu'un ennemi fort et puissant vient de la part du Seigneur, comme une averse de grêle, un ouragan destructeur, comme une averse de grosses eaux qui déborde, il le jettera par terre avec violence. Vous voyez à quel point, mes bien chers frères, il importe de protéger notre vie spirituelle. On compare souvent l'âme à un château fort. C'est une comparaison qui vient de Saint-Thérèse d'Avila. Eh bien, l'âme à un château fort, lorsque dans le château fort, il y a un donjon central. C'est là où se réfugie la famille du prince, la famille du roi. Et donc, le donjon est fortifié, il est protégé par une circonférence, il y a des murs très épais, les remparts qui vont protéger le donjon. Le donjon représente donc le cœur de l'âme. Le cœur de l'âme, et il faut donc protéger cette âme, et on protège cette âme justement par le jeûne, par l'aumône et par la prière pour lutter contre les trois concupiscences des yeux, de la chair et de l'orgueil. Alors les pères là donnent encore une fois des explications qui sont toutes simples mais très belles. Le sable est mou et changeant et ne peut donner une fondation solide et durable. Il est sec et représente l'esprit instable, vide des vertus et de l'humidité de l'Esprit Saint. Il est soufflé par le vent, dispersé dans toutes les directions. De même, un esprit léger et inconstant est porté vers toutes sortes de concupiscences par chaque souffle de désir et de tentation. Enfin, il est très fin, composé de millions de petits grains. De même, le cœur instable est rempli de milliers de pensées et de désirs de choses vaines et superficielles. Donc il faut regrouper ces grains de sable, les former, parce que le sable se compacte. Il a formé un rocher, un roc. On voit très bien en géologie comment un sable, un lit de sable, avec le temps, va finir par se transformer en une roche sédimentaire. Mais c'est la même chose pour notre âme. Le sable, une fois qu'il est rassemblé devant notre Seigneur Jésus-Christ, avec la grâce du bon Dieu, va former un roc inébranlable. Et si notre âme est fondée sur ce roc, à ce moment-là, le démon n'aura aucune prise sur nous. Ensuite, le sens anthropologique. J'ai terminé ces paragraphes-là, page 18. Sens anthropologique, je vous rappelle que le sens anthropologique, c'est le sens moral. La personne folle et mondaine construit sur le sable comme sur des créatures qui sont dénudées de bonnes choses et qui sont dans un état de fluidité, prêtes à tomber dans le péché, ébranlées par les vagues, car agitées par les travaux et les tentations. Le sable est sec, insatiable, ainsi que les créatures qui ne peuvent satisfaire l'âme de l'homme. De même que les grains de sable sont très nombreux, ainsi le nombre de fous est infini et celui des maudits innombrable. Donc, autant le sable mou ne peut en aucun cas être considéré comme une fondation de la maison, si au contraire le sable est transformé en une roche solide, une roche sédimentaire formée à partir du sable, eh bien cette roche, à ce moment-là, va pouvoir soutenir le poids de la maison, et ce rocher, mystiquement parlant, c'est le Christ. Enfin, terminons par d'autres dernières comparaisons utilisées par les pères. Donc, au milieu de la page 18, sur le polycopier, le sable représente la stérilité des gens qui suivent le démon. Pourquoi? Parce que quand on plante quelque chose dans le sable, il n'y a rien qui pousse dans le sable, c'est le désert. Donc, la stérilité des gens qui suivent le démon, leur désunion, alors que le peuple de Dieu est fort et uni comme un roc. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. La pluie dénote les tentations du monde. Les rivières, celles de la chair, comme la gourmandise et la luxure, les vents, celles du démon. Car la pluie qui tombe d'en haut et provoque un gonflement de la terre, la rendant féconde, représente l'ambition des honneurs et le désir des richesses que le monde offre à l'homme vain et inconstant, qui le fait quitter la loi de Dieu et s'éloigner de la foi. N'oublions pas que, toujours la même chose, pour pouvoir justement lutter contre le démon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'humilité. Les vents qui soufflent de l'atmosphère contre la maison, littéralement et invisiblement, représentent les tentations du démon, qui ont un esprit invisible et le prince du pouvoir des airs. Car il insinue et souffle sur nous des milliers de pensées et de désirs qui sont si subtils que parfois on ne sait s'ils viennent d'un ange ou du démon. Satan, en effet, se transforme en un ange de lumière. N'oublions pas qu'il est le prince des démons. Le prince des démons, c'est le singe de Dieu. Il imite le bon Dieu comme un singe imite l'homme. Voilà, mes bien chauffeurs, nous allons arrêter là. Donc, le prochain cours, si Dieu veut, dans une semaine. Nous sommes à la page 18 et la prochaine fois, si Dieu veut, nous terminerons le chapitre 7 de Saint Matthieu. Terminons par une petite prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.